Radio Prague, les informations. Bonjour, le Premier ministre tchèque a proposé à Angela Merkel un débat public sur l'achèvement de la centrale nucléaire de Temelín. Énergie renouvelable, Bruxelles critique la République tchèque et la France. Et puis en tennis, Tomáš Berdych s'est relancé dans la course à la qualification pour les demi-finales du Masters. Le Premier ministre tchèque Petr Nečas a proposé à la chancelière allemande Angela Merkel d'organiser en Allemagne un débat public sur l'achèvement de la centrale nucléaire de Temelín, une centrale située en Bohême du Sud à quelques dizaines de kilomètres des frontières avec l'Allemagne et l'Autriche. Selon le chef du gouvernement tchèque, ce débat commun pourrait renforcer les relations germano-tchèques et la coopération dans le domaine énergétique. La société nationale ČEZ exploite à l'heure actuelle 2 réacteurs à Temelín. La construction de 2 autres réacteurs devrait être achevée au plus tard en 2025. Les offres des 3 entreprises candidates à l'achèvement de la centrale devraient être remises l'année prochaine et le vainqueur de l'appel d'offres connu en 2013. La Commission européenne doit adresser ce jeudi à la France et à la République tchèque un avis motivé pour leur reprocher de ne pas avoir encore transposé complètement la directive européenne sur les énergies renouvelables, alors qu'elles auraient dû le faire en décembre 2010, selon les Échos. Paris et Prague n'ont pas mis en place de procédures administratives claires et transparentes pour garantir l'accès des énergies renouvelables aux réseaux électriques et faciliter leur production décentralisée, précise ce mercredi le quotidien économique français, citant un texte qu'il a pu consulter. Bruxelles reproche également aux 2 pays de ne pas encore avoir pris en compte les exigences européennes en termes de biocarburant, une autre disposition de cette législation datant de 2009. Le gouvernement a reporté d'un mois le débat sur l'interdiction du Parti communiste. Ce mercredi, le ministère de l'Intérieur, chargé en juillet dernier par le gouvernement de préparer un projet pour le mois de novembre, a présenté son rapport. Le ministère a toutefois fait savoir que même avec l'aide d'experts et de rapporteurs, il n'avait pas réussi à constituer un dossier accablant. Ces experts ont déclaré qu'il n'était pas possible d'interdire le Parti communiste si celui-ci ne représentait pas une menace pour le système démocratique. Alexandra Vondra, le ministre de la Défense, ancien dissident, a été le premier à critiquer son collègue de l'Intérieur, Jan Kubice, pour ne pas avoir rempli la mission confiée par le gouvernement. Politique toujours, le Parti civique démocrate et le Parti social démocrate, les 2 principales formations de droite et de gauche du pays, ont officiellement confirmé ce mercredi la fin de leur coalition et de leur collaboration contre nature à la municipalité de Prague. Les directions des 2 partis ont trouvé un accord portant sur un délai de 30 jours à l'issue duquel le contrat de coalition sera caduque. Des nouvelles négociations vont désormais être engagées pour former une autre coalition avec l'autre parti de droite, Top 09, vainqueur lui des élections municipales en 2010. Sans surprise, le gouvernement ne soutiendra pas à la Chambre des députés le projet du Parti communiste d'organiser un référendum portant sur la restitution des biens confisqués aux églises du pays sous le régime communiste. C'est ce qu'a confirmé ce mercredi le Premier ministre Petr Nečas. Le cabinet a également rejeté le projet similaire présenté par le Parti social-démocrate visant lui à la création d'une loi relative à l'organisation de référendums. Fin septembre, le gouvernement a, rappelons-le, approuvé un projet de loi sur les l'État s'engage, entre autres, à restituer aux églises 56% de leurs biens et à leur verser aussi progressivement, sur une période de 30 ans, une compensation de 2,35 milliards d'euros pour les biens ne pouvant être restitués. On passe au sport et au tennis. Tomáš Berdych a battu le Serbe Janko Tipsarević en 3-7 mercredi à Londres à l'occasion de son 2e match de groupe comptant pour le Masters, tournoi réunissant les meilleurs joueurs de la saison. Le Tchèque a remporté le jeu décisif de la 3e manche après avoir sauvé une balle de match. Lundi, lors de son 1er match, Berdych s'était incliné contre Novak Djokovic après un scénario similaire dans le jeu décisif et après avoir bénéficié d'une balle de match. Cette victoire permet au Tchèque de conserver ses chances de qualification pour les demi-finales du tournoi. Pour cela, il devra battre l'Espagnol David Ferrer lors de son 3e et dernier match de groupe vendredi. On termine avec un mot de météo. Le ciel reste très couvert, notamment dans la moitié nord du pays, ce jeudi, jour de la fête des Émiliers, Émilie donc en français. Le soleil pourrait faire quelques apparitions, essentiellement en Bohême du Sud et en Moravie du Sud. Les températures sont stables et varient entre 1 et 5 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie et plus précisément en la compagnie de Václav Richter pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Trois œuvres d'art tchèque, deux tableaux et une statue d'une grande valeur artistique qui avait été saisie à Vienne, ont été restituées à la République tchèque. Pour le 206e anniversaire de la bataille d'Austerlitz, on prépare en Moravie la reconstitution traditionnelle de la bataille des trois empereurs. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission. La suite sera réservée à la rubrique « Chapitre de l'histoire tchèque » dans le cadre de laquelle notre collaborateur Paul Bauer interrogera l'historienne Claire Madl sur la situation dans les pays de la couronne tchèque à la fin du XVIIIe siècle, donc à la fin du siècle des Lumières. Tels sont donc les programmes que nous avons préparés à votre intention. Merci de rester avec nous et bonne écoute. Trois œuvres d'art tchèque saisies en mai dernier à Vienne dans le cadre de l'affaire Diak-Human ont été restituées à la République tchèque. C'est une décision de la Cour régionale de Vienne qui a invalidé la décision sur la saisie prise par une instance inférieure. Selon la Cour viennoise, la justice autrichienne ne dispose pas des compétences nécessaires pour pouvoir ordonner une telle saisie. Le litige entre la société Diak-Human et la République tchèque a commencé dès le début des années 1990. La société se considère lésée par les autorités tchèques, les accusant d'avoir nui à son commerce de plasma sanguin. Selon le dernier verdict du procès d'arbitrage, la République tchèque devrait payer à Diak-Human une somme de 9 milliards de couronnes, qui, avec les taux d'intérêt, atteint aujourd'hui 10 milliards, soit près de 400 millions d'euros. Les autorités tchèques ne considèrent pas cependant cette décision de la Cour d'arbitrage comme légalement valide. Cette année, Diak-Human a, par mesure de rétorsion, demandé la saisie d'œuvres d'art prêtées par des galeries tchèques à des expositions dans plusieurs pays, dont l'Autriche et la France. À la suite de cette démarche, trois œuvres d'art tchèques, des tableaux d'Emil Fila et de Vincenz Beneš et une statue d'Otto Gundfreund ont été saisies à Vienne. Selon le ministère tchèque de la Culture, l'affaire a non seulement englouti d'importants moyens financiers, mais a également nui à la renommée internationale de la République tchèque, qui jusqu'à présent pouvait présenter sans problème son art dans le monde. L'attaché de presse du ministère, Stanislav Brunslik, constate.
En ce qui concerne les pertes financières que nous avons subies, il s'agit d'une somme de près de 1 200 000 couronnes.
Cette somme ne comprend pas cependant les frais des institutions étrangères qui collaborent avec les galeries et les musées tchèques. À cause du danger de saisie pesant sur les activités étrangères des institutions tchèques, le ministère n'a pas pu présenter hors des frontières du pays 1150 objets d'art et a dû renoncer à participer à 58 expositions et manifestations culturelles. L'absence d'œuvres tchèques a été parfois si importante que certaines expositions ont dû être annulées. La société Diak-Human peut encore se pourvoir un appel contre le verdict de la Cour régionale de Vienne et son avocat tchèque Jan Kalvoda vient d'annoncer qu'elle le fera. L'ambassadeur tchèque en Autriche, Jan Koukal, ne pense cependant pas que cette démarche puisse aboutir.
Bien que je suppose que la société fera appel, je dirais que la révision du verdict à la suite de cet appel est assez improbable. Le fait que les trois œuvres concernées aient été restituées à nos galeries en est une sorte d'indicateur.
En juin 2011, le propriétaire de Diak-Human, Josef Stiava, a vendu la société à un consortium d'investisseurs internationaux. Cela n'a pas changé cependant les exigences de la société vis-à-vis de l'État tchèque et l'affaire est donc loin d'être finie. Les autorités tchèques demandent maintenant la révision du procès d'arbitrage et il faut donc s'attendre à de nouveaux rebondissements. Ce 2 décembre sera le 206e anniversaire de la bataille d'Austerlitz. Pour parler des préparatifs et de la reconstitution traditionnelle en Moravie, Radio Prague a joint le président de l'association Projet Austerlitz, Jakub Samek. Il a été interrogé par Alexis Rosenzweig.
Jakub Samek, bonjour. Vous êtes le vice-président du projet Austerlitz. Vous organisez depuis quelques années la reconstitution de la bataille d'Austerlitz dans ce village qui en tchèque s'appelle Slavkov, ou en tout cas autour de Slavkov. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de ce qui va se passer cette année, le 2 décembre prochain donc?
Bonjour, je travaille donc pour le projet Austerlitz. Et pour cette année, pour le 206e anniversaire de la bataille d'Austerlitz, nous avons préparé un événement qui commence vendredi, le 2 décembre, mais dont les points principaux du programme commencent samedi, le 3 décembre, par la bataille, par la reconstitution de la bataille des Trois Empereurs sous la colline de Santon. Ça continue par un défilé solennel terminé par un feu d'artifice le soir du 3 décembre à Austerlitz. Et puis dimanche, c'est un événement traditionnel sur le Pratzenberg, sur le point culminant de la bataille d'Austerlitz. Et c'est un acte de recueillement au monument de la paix établi au début du XXe siècle par un historien local, par le premier historien tchèque de la bataille d'Austerlitz, Pater Aloj Slovak. Donc c'est les trois points principaux de cet événement commémoratif.
Vous attendez à combien de figurants, de combien de pays et à combien de personnes dans le public?
En ce qui concerne les participants, les reconstitueurs, on en aura quelques 900 à peu près. Ils viennent quasiment de toute l'Europe, c'est, hormis la République tchèque, c'est la Slovaquie, la Pologne, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Russie, Lettonie, l'Hongrie, je ne veux pas en oublier, mais il y en a vraiment beaucoup, et l'Autriche évidemment. Et pour les spectateurs, pour la bataille générale, beaucoup dépend évidemment du temps. Quand il fait beau, on en compte presque 6 ou 7 000.
Et il fait souvent froid le 2 décembre en Moravie.
Souvent froid. L'année passée, c'était vraiment dur. On avait, juste après la bataille, la température tomba vers moins 16, moins 17 degrés. Donc c'était vraiment une campagne de Russie plutôt qu'une campagne d'Austerlitz.
Est-ce que je peux vous poser une question un peu plus personnelle? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous occuper de ce projet et à devenir le vice-président de cette association Projet Austerlitz?
Bon, l'histoire napoléonienne m'intéresse depuis ma jeunesse. Ma mère, elle est francophone, elle est traductrice, donc j'étais depuis ma jeunesse en contact avec les Français, avec la culture française. Et tout ça s'est mélangé avec un intérêt pour l'histoire militaire. Et depuis 10 ans, j'ai rencontré des reconstitueurs qui m'ont invité à les rejoindre. Donc ça me passionne. Aujourd'hui, c'est mon métier et mon loisir en même temps.
Merci beaucoup, Jakub Samek. Et je rappelle que pour le programme détaillé de la reconstitution de la bataille, votre site internet est le www.austerlitz.org. Merci et bonne journée.
C'était donc le président de l'association Projet Austerlitz, Jakub Samek, au micro d'Alexis Rosenzweig. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Claire Madl est historienne au Centre français de recherche en sciences sociales, CEFRES, et spécialiste de l'histoire du livre et de la circulation des idées à l'époque moderne. Au micro de Radio Prague, elle revient sur la fin du XVIIIe siècle dans les pays tchèques, une période charnière durant laquelle les pays de la couronne de Bohême, tels qu'on les appelait à l'époque, définissent leur place dans le mouvement de modernisation de la pensée et de la société qui se diffuse dans l'Europe. Les propos de Claire Madl ont été recueillis par Paul Bauer.
chapitre de l'histoire.
Alors une première question, Claire Madal, quels sont les domaines, les idées des Lumières que l'on retrouve dans les pays tchèques à la fin du XVIIIe siècle ?
Donc la première idée, c'est la nécessité de rationaliser la vie publique. On le voit très bien avec les réformes qu'ont menées Marie-Thérèse et Joseph II dans toute la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il y a l'idée de tolérance qui évidemment a beaucoup d'écho dans une société qui a subi la recatholisation et qui, lorsqu'elle pense son histoire, notamment je pense aux historiens qui étudient le hussitisme, est propre à accepter cette tolérance. Et c'est Joseph II, encore une fois, qui va l'instituer avec la patente de tolérance qu'il publie en 1781.
C'est une tolérance religieuse principalement ?
Oui, je parle de tolérance religieuse là, et qu'il d'ailleurs concerne certaines églises protestantes seulement, comme les luthériens, mais pas le calvinisme, etc. Ou les juifs, par exemple, son attitude envers la communauté juive. Autre idée qui est acceptée, c'est celle qui vient plutôt alors des Lumières allemandes, de l'Aufklärung, du droit naturel, qui va être mise en pratique dans l'établissement d'un code civil, encore une fois sous Joseph II. Et puis il y a cette grande idée qui sur la force de l'éducation qu'il faut répandre et qui promet le progrès aux sociétés et qui va amener beaucoup de réformes, notamment sous Marie-Thérèse, dans le domaine de l'enseignement.
Vous avez parlé de droit naturel. De quoi s'agit-il exactement ?
Il s'agit d'une réflexion théorique sur les droits qui sont propres aux hommes, disons, à leur naissance et hors de toute appartenance corporative ou sociale. C'est quelque chose qui, en France, bien sûr, va donner la Déclaration des droits de l'homme, qui est en fait une mise en pratique et une mise en œuvre de ce droit naturel, et qui, dans la monarchie des Habsbourg, par exemple, se concrétise par la patente de suppression du servage.
Vous avez également évoqué la question de l'éducation, qui est un thème central dans les pays tchèques. Comment ça se présente à ce moment-là dans les pays de la couronne ?
Il y a une grande conscience d'un certain retard après la guerre de 7 ans, au milieu du siècle.
Un retard par rapport à qui ?
Par rapport à, on dira, la France et même certaines régions de l'Allemagne. Et il y a donc un effort, on conçoit à ce moment-là qu'il y a un effort à faire pour élever le niveau de l'éducation dans la monarchie des Habsbourg. Et Marie-Thérèse va entamer une réforme systématique de l'école, du plus bas niveau jusqu'avec elle au lycée. Après, ça sera continué, il y aura une réforme des universités. C'est à la fois, disons, un grand débat avec beaucoup de livres publiés sur l'éducation des femmes, beaucoup de publications pour les enfants à cette époque. Ça devient vraiment un rayon de librairie à part entière. Et puis, dans la pratique, donc, des réformes qui cherchent finalement à vraiment rendre l'enseignement obligatoire pour tous les enfants et le rendre possible, cet enseignement. Donc, densifier le réseau des écoles, etc.
Donc la modernisation de l'éducation dans les pays tchèques s'inscrit dans un phénomène plus vaste à l'échelle de l'Europe. En quoi ce système, tel qu'il s'applique dans les pays tchèques, est-il particulier ?
Là où il devient particulier, c'est peut-être pour la question de la langue. Pour ce qu'on appelle l'école triviale, l'enseignement se fait en tchèque. Les manuels qui sont choisis, rédigés et dirigés, j'allais dire, à partir de Vienne, sont traduits à Prague en tchèque. Cela est moins vrai pour le niveau du lycée. Et très nettement, les populations tchécophones qui voient revenir leurs enfants les plus doués, qui sont allés aller au gymnasium, au lycée, les voir revenir germanophones, en fait. Et lorsque Joseph II va vouloir imposer l'allemand comme langue d'enseignement à l'université, là, les réactions vont être fortes. Et ce n'est pas pour rien que juste après Joseph II, en 1791, une chaire de langue tchèque va être créée à l'université de Prague.
Donc la modernisation de l'éducation dans les pays tchèques, est-ce que c'est quelque chose qui accompagne l'éveil national ou qui le déclenche ?
Disons qu'à l'intérieur du débat sur la nécessité d'augmenter le niveau de l'éducation, il y a la question de la langue qui se pose, j'allais dire, de prime abord. Et puis ensuite... on se rend compte à la fois d'une façon pratique qu'effectivement il faut pouvoir garantir que l'enseignement des sous-officiers de l'armée va être assuré dans une langue qu'ils comprennent et que les officiers devraient les comprendre, que les enfants aussi peuvent avoir bénéficié d'un enseignement dans leur langue. Et puis à un niveau plus général, c'est un débat que l'on a vu aussi, qui a lieu, disons, peut-être un peu plus tôt, dans les pays germaniques, et qui est de revalorisation de la langue allemande face au latin et puis aussi face au français, qui cherche à montrer que l'allemand est tout à fait apte à devenir une langue de communication intellectuelle, une langue érudite. Finalement, ce débat passe très bien dans les pays tchèques. Il commence d'ailleurs à être... disons qu'il y a des intellectuels qui sont en pays tchèque et qui participent à ce débat sur l'allemand, qui écrivent des poésies, qui les publient en allemand, qui enseignent l'allemand à l'université de Prague et qui participent de ce mouvement. Et puis ça passe ensuite sur le tchèque.
Et le français comme langue de diffusion des idées des Lumières à la fin du XVIIIe siècle, c'est aussi une époque où l'élite partage un même mode de vie et puis s'exprime ses idées à partir du français. Comment cela se passe dans les pays tchèques à ce moment-là, puisque vous parlez de l'influence croissante de l'allemand comme langue d'expression de la modernité?
Alors le français, c'est une langue qui est pratiquée par une élite, mais une élite, je dirais, de cour à la base. C'est-à-dire, ce sont des aristocrates. Le français a pénétré à Vienne, à la cour de Vienne, assez tard, finalement, au cours du XVIIIe siècle. Avant, on trouvait peut-être plus souvent l'italien ou, sous Rodolphe II, l'espagnol. Le français devient une langue de communication aristocratique, nettement au milieu du XVIIIe siècle. Et effectivement, les idées pénètrent de façon directe, c'est-à-dire qu'il y a une sphère de la très très haute administration qui communique en français et qui donc a une discussion, on va dire, vraiment au niveau européen, ce qu'on appelle les grands commis de l'État. Le français donc est élu et pratiqué, c'est aussi un moyen de distinction sociale. Souvent les non nobles qui comprennent le français sont par exemple dans des emplois au gouvernement de Prague, c'est-à-dire sont en contact régulier avec les aristocrates, mais ça ne s'étend pas au-delà. Ensuite, tout est médiatisé, et dans la mesure où il y a énormément de traductions du français vers l'allemand durant tout le XVIIIe siècle, les idées passent d'une façon indirecte par l'allemand.
L'un des principaux phénomènes des Lumières en Europe, c'est la création des opinions publiques. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une opinion publique dans les pays tchèques à ce moment-là ?
Alors, on observe, en effet, oui, on peut dire que oui, puisqu'on observe que naissent à Prague des institutions de la vie intellectuelle et culturelle qui sont véritablement circonscrites, ou du moins leur objet, ce sont les pays tchèques, et leur rayon d'action, c'est les pays tchèques, parfois les pays tchèques, parfois la Bohème. Par exemple, concrètement, c'est le moment où est fondée une société des sciences qui est privée au départ et ensuite qui reçoit l'approbation de Vienne, c'est une société des sciences de Bohème. Les discussions se passent de plus en plus souvent dans des journaux, dans des revues, donc indépendantes, donc des institutions qui sont une institution comme la Société Savante est indépendante à la fois de l'université, à la fois de l'Église et de la Cour. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elles sont, elles se considèrent véritablement comme comme bohème. Et puis l'opinion publique, c'est pas seulement des journaux, c'est aussi des lieux de discussion plus ou moins formels, comme les cabinets de lecture, les cafés qui reçoivent tous à cette époque des journaux et dans lesquels on va pour lire les journaux. Et le contenu de ces débats très souvent a pour objet ce qui se passe ici, et l'enjeu, c'est de montrer qu'il y a véritablement une vie culturelle et littéraire au niveau des pays tchèques. À côté de la Société Savante, par exemple, est fondée à la toute fin du siècle aussi la future Galerie Nationale, une galerie d'art qui rassemble des œuvres qui étaient dans des collections privées et qui deviennent accessibles notamment à des étudiants ou au public. Et puis l'institution, disons, qui va devenir l'institution nationale et qui naît, elle, au début du 19e siècle, en 1818, c'est le Musée National. Donc cette opinion publique, oui, elle se structure à ce moment-là et elle cherche à montrer et à diffuser disons ce qui se publie et ce qui se pense ici dans les pays tchèques.
Donc un particularisme par rapport à l'Empire, par rapport à l'Europe.
C'est un particularisme, mais il faut bien voir que c'est un phénomène qui a lieu partout. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, c'est aussi, enfin, les intellectuels et les érudits qui participent à la naissance de ces revues et de ces institutions plus ou moins formelles ont tout à fait conscience de participer à quelque chose qui se passe ailleurs, pas dans un repli sur soi, mais ils veulent animer le débat qui a lieu aussi ailleurs. Et d'ailleurs, ils sont très très ouverts à tout ce qui est publié ailleurs. La Bohème, à cette époque, importe énormément de livres et de revues, et il est tout à fait normal de trouver dans le café du coin, j'allais dire, des journaux non seulement de Vienne, de Prague et de Brno, mais aussi de la Rhénanie et de l'Allemagne du Nord protestante. Le milieu reste très très ouvert.
Claire Madel, je vous remercie.
Merci à vous.
C'était Claire Madel, historienne au Centre français de recherche en sciences sociales CEFRES, au micro de Paul Bauer. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.16z/fr.